Il vient d'être 18h à Niamey, c'est l'heure du journal du studio Kalangou au micro Michel Dj. Les titres de ce journal, temps fort pour les pèlerins au Hajj 2018. Demain lundi, ils seront dans la ferveur du mont Arafat, lieu du dernier sermon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les explications du prédicateur Oustaz Mustapha Ahmadou sont à suivre dans ce journal. Les leaders de la société civile nigérienne anti-loi de finances 2018 ont débuté une tournée de sensibilisation sur les droits des citoyens à l'intérieur du pays. La première étape de cette tournée a concerné hier la région de Tillabéri et Co dans ce journal. Nous sommes dimanche en partie magazine. Vous suivrez un condensé des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine qui s'achève. Ce sera avec Raylotou Soumana. Bonsoir à tous et bienvenue. Les pèlerins présents en Terre Sainte de l'Islam seront demain au mont Arafat, une colline située à une vingtaine de kilomètres de la Mecque. L'Islam enseigne que c'est là que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé son serment d'adieu et demandé à ses fidèles d'embrasser à jamais la religion musulmane. D'autres précisions avec le prédicateur Oustaz Mustapha Ahmadou, interrogé par le studio Kalangou.
Le prophète a dit dans un hadith authentique, le pèlerinage c'est le mont Arafat, le pèlerinage c'est le mont Arafat, le pèlerinage c'est le mont Arafat. Ça veut dire que c'est lui qui rate l'ascension du mont Arafat alors qu'il est parti pour le pèlerinage, pour une raison ou pour une autre, eh bien il a raté le hajj. Son importance c'est quoi? C'est que c'est un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon dans lequel il a fait au revoir parce qu'il a quitté le monde après ce pèlerinage-là. Et les versets qui clôturaient le Coran, c'est au cours de ce sermon-là que le prophète l'a dit. Aujourd'hui, je vous ai parachevé ma religion et je vous ai accordé comme religion l'islam.
Que faut-il faire alors pour un musulman le jour de l'Arafat?
Le professeur Lassane nous a conseillé ce jour-là, même si on n'est pas là-bas, de jeûner, de faire en tout cas des invocations, de faire des rituels qui montrent qu'on est fier, on est à un jour crucial de notre religion.
Les leaders de la société civile nigérienne ont entamé hier une tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays sur les voies et moyens que le citoyen pourrait adopter pour défendre ses droits. Ils ont débuté samedi par la région de Tillabéri. Noël Zika nous donne les objectifs de cette tournée au micro de Haruna Soumaï.
Notre intérêt dans cette démarche, c'est de travailler à œuvrer pour amener les citoyens à comprendre que seule la lutte paye, seule la lutte libère. Et il faut s'organiser pour lutter face à n'importe qui, face à d'autres forces de toute nature qui agissent dans le but de nuire aux intérêts des citoyens. Alors, en perspective, la poursuite du combat autour des questions qui sont là, notamment la loi des finances, les mesures contenues dans la loi des finances qui sont là, qui sont des mesures permanentes qui seront applicables en 2019, en 2020, jusqu'à pour quelle année, tant qu'on ne les aura pas modifiés. Et c'est pour cela que le combat, ce n'est pas une affaire de nombre de mois. Et nous allons continuer le combat jusqu'à ce que ces mesures tombent. Notre action est citoyenne. Elle concerne tous les citoyens sans exclusive. Et ce n'est pas une action qui s'inscrit dans une démarche partisane. C'est une action qui s'inscrit dans une démarche citoyenne. Notre principale logique, c'est la logique de la défense des intérêts globaux du pays. Ici, à Tillabéri, l'espoir que nous fondons, c'est que nous puissions espérer que les citoyens de Tillabéri puissent se mobiliser plus que par le passé.
Ouverture vendredi 17 août de la deuxième session ordinaire du conseil municipal d'Arlit au titre de l'année 2018. Plusieurs points ont été évoqués au cours de cette session qui durera 4 jours. Par ailleurs, la commune d'Arlit progresse très rapidement vers une vision de développement par l'appui des projets et partenaires. Maoulou Abdourahmane, maire d'Arlit, au micro de Tarnan Foudaï Ahmed.
La commune urbaine d'Arlit progresse, comme vous le constatez, inexorablement vers une vision de développement et une recherche continue des partenaires au développement. Ainsi, nous notons avec satisfaction l'appui des partenaires au développement à travers des programmes et projets des partenaires techniques et financiers, et c'est là grâce aux efforts de l'exécutif permettant ainsi une riée de partenaires qui ont compris désormais la nécessité d'intervenir à Arlit. Malgré la présence des exploitations minières perçues longtemps comme un Eldorado et bloquer l'arrivée de certains projets de développement. Dans cette lancée notre commune a bénéficié de la construction d'un marché moderne, de la construction d'une gare moderne routière, la construction de 30 boutiques communales, de la réalisation d'une étude d'assainissement, du renforcement des centres de formation professionnelle, construction et équipement, de la construction de 38 classes équipées, 3 blocs administratifs, des latrines et des matériels didactiques et pédagogiques, la formation et accompagnement de 160 jeunes en mécanique, moto et pompe, en chauffeur mécanicien, en couture et coiffure hommes et dames, et la clôture de certains nombres d'établissements.
Propos recueillis par Ousmane Oumogou. Fin de la formation vendredi des élèves sous-officiers d'actifs de la promotion Baye Soumana à l'École nationale des sous-officiers d'actifs d'Agadez. Ils sont au total 95 élèves du Burkina, du Mali, de la Guinée, du Tchad et du Niger, selon le capitaine Jibril Menasser Chekaro, commandant de la division d'instruction militaire à l'École nationale des sous-officiers d'Agadez. Ces élèves ont reçu toutes les bases techniques qui leur permettront de répondre efficacement sur le terrain.
On a besoin des cadres pour encadrer les soldats sur le terrain, pour faire face aux multiples menaces que le pays connaît actuellement. Le nom de la promotion est Adjudant-chef Baye Soumana. C'est l'un des premiers élèves sous-officiers que l'école a connu en 2003. D'ailleurs, en 2003, c'était la première promotion que l'École nationale des sous-officiers d'actifs accueillait. Et il faisait partie de cette promotion. C'est un brave soldat qui est tombé sur le champ d'honneur. Nous avons voulu honorer sa mémoire en donnant son nom à la promotion qu'il souhaitait pour qu'il prenne l'exemple de ce brave soldat tombé sur le champ d'honneur. Depuis l'ouverture de ce centre, on a eu à former plus de 500 sous-officiers du Niger et des pays frères et amis de la sous-région. J'ai juste attendu c'est qu'ils soient de braves soldats d'abord sur le terrain, ensuite de pouvoir inculquer ce qu'ils ont appris à leurs subordonnés, notamment les soldats. C'est une réussite à 100% parce que pendant ces 2 années de formation, nous leur avons inculqué le savoir nécessaire afin d'être à même de remplir leur mission.
Fin de la formation vendredi des élèves sous-officiers. Vous venez de suivre des propos recueillis par Anissé Karim. Déjà présente dans le nord du pays, la menace djihadiste se propage dans l'est du Burkina Faso. Le week-end dernier, 5 gendarmes et un civil ont été tués dans une embuscade contre leur convoi à 100 km de Fadangouma, chef-lieu de la région de l'est. Le véhicule de tête a sauté sur une mine, puis les assaillants ont déclenché une fusillade, une attaque terroriste, selon le ministère de la Défense burkinabé, a rapporté une dépêche de l'AFP de vendredi. Depuis un moment déjà, la région de l'Est est dans l'œil du cyclone. C'était déjà une zone reconnue pour des attaques de grand banditisme, mais elle commence à être ciblée aussi par des attaques terroristes. Renchéri Paul Kaolaga, consultant burkinabé en géopolitique et sécurité. À l'approche de la fête de Tabaski, une opération de salubrité a été organisée ce matin au quartier Kouakhtédji de Niamey par l'Association des jeunes pour le développement. Le lancement de cette activité a eu lieu à la plus grande mosquée de vendredi de ce quartier. On écoute le président de l'AJD Wafakei, Mohamedou Munkeil Haruna, au micro du studio Kalango.
Comme bientôt c'est la fête de Tabaski, donc nous voulons mettre l'endroit en bon propre pour que les gens puissent prier, comme la salité et consort. C'est pas bon dans une mosquée, par exemple, qu'on a décidé de venir mettre l'endroit propre. Et aussi, c'est pas dans la mosquée seule, même en ce qui concerne dans l'autoroute, nous voulons aussi entamer pour amener des changements. Dans le futur, nous demandons à ceux qui ont des appuis vraiment de venir nous gérer, puisque c'est quelque chose qu'on est en train de faire socialement pour pouvoir montrer à l'opinion nationale et internationale que vraiment l'amour de ce pays et que le pays nous appartient. Donc nous sommes prêts pour le développement de ce pays.
La culture de Gombo est une activité qui procure des revenus importants aux femmes du département de Tanout. C'est un vecteur qui permet à la femme d'être indépendante financièrement. Notre reporter Balkis Amidou est allé à la rencontre de ces femmes qui évoquent les bons côtés de cette culture de Gombo, mais aussi des menaces en vue. Voici son reportage.
La culture de Gombo est une activité qui est très développée dans le département de Tanout. Elle est pratiquée par les femmes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, nous a affirmé celle-ci trouvée en pleine activité dans leur champ à Eka.
Par la grâce de Dieu, nous arrivons à subvenir à nos besoins à travers la culture de Gombo. Avec les revenus générés, nous achetons des habits et assurons la scolarité de nos enfants. Nous pratiquons cette activité depuis une quinzaine d'années en vue de prendre en charge nos dépenses. Vraiment, nous tirons profit de cette activité.
D'autres femmes pratiquent cette culture de Gombo pour la consommation de la famille. Depuis quelques années, ces femmes rencontrent des difficultés difficultés qui risquent de compromettre leur principale source de revenus. L'une d'elles lance un appel à l'aide.
Depuis quelque temps, il y a les animaux qui viennent brouter notre gombo à la récolte. Nous pouvons perdre l'équivalent de 3 à 4 sacs et par productrice. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État et aux bonnes volontés pour qu'ils nous fournissent les grillages afin de clôturer nos champs.
La culture de gombo à laquelle s'adonnent les femmes de Tanout est un exemple concret qui permet l'autonomisation de la femme sur le plan financier.
Fin hier à Dogondouchi, région de Dosso, des compétitions de la 19e édition du tournoi international de volleyball en dames. C'est l'AS Police de Niamey qui est sacrée championne en battant l'équipe de Gao du Mali par 3-1. Et la troisième place est occupée par l'ASVB Aéroport de Niamey. Du côté des hommes, la coupe a été remportée par l'AS Renaissance de Niamey en battant l'Union sportive de la Gendarmerie nationale 3-0. L'AS Rimbo est classé troisième. Douka Soumaïla Boubacar, coordonnateur du comité d'organisation, se dit satisfait du déroulement de la compétition. On l'écoute au micro de Abdulaziz Dayouma.
Par rapport à la participation dans un premier temps des équipes, nous avons accueilli 17 équipes, 12 équipes garçons et 5 équipes en filles. Donc, ce qui nous a amené à un total de 177 joueurs sur un effectif de 198 participants. Le second plan, c'est par rapport à la portée de l'événement. L'événement a eu tout son caractère international avec la participation de l'équipe du Nigeria qui vient de Kazaouré et l'équipe du Mali qui vient de Gao. Par rapport à la compétition, on peut dire que c'est satisfaisant parce que toutes les coupes sont restées au Niger. Et nous notifions la deuxième place en dames qui a été remportée par l'équipe de Gao que nous avons beaucoup félicité parce qu'ils ont permis à relever le niveau de la compétition. Le résultat est vraiment satisfaisant.
Comme annoncé, place à présent la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à la rétrospective des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine qui s'achève. C'est dans une présentation de Raïla Toussmana.
L'actualité nationale qui a marqué cette semaine, c'est tout d'abord les inondations enregistrées dans la région d'Agadez, notamment dans les communes rurales de Dabaga et Tabelote, qui sont les plus touchées. De fortes pluies se sont abattues dans la nuit du 14 au 15 août dernier sur cette région, entraînant le débordement du Koritelwa qui a causé d'importants dégâts. Selon le maire de Dabaga, entre autres, près de 2000 ménages sinistrés ont été enregistrés, 128 maisons effondrées et une ambulance emportée dont les cadavres des 4 occupants sur les 5 ont été retrouvés. L'actualité marquante, c'est aussi le Conseil des ministres de lundi qui a prorogé de 6 mois le mandat des conseils municipaux, régionaux, de villes et des délégations spéciales du Niger qui prend effet le vendredi 17 août. Cependant, cette mesure ne concerne point le Conseil de ville de Maradi et ses démembrements dont les fonctions seront désormais dévolues à une délégation spéciale. Le communiqué du gouvernement a justifié ce non-renouvellement de mandat pour leur incapacité à faire face à leur mission de service public. Mercredi, le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Idi Maynassara, a fait le point sur l'épidémie de choléra qui sévit à Madarounfa dans la région de Maradi depuis le 4 juillet dernier. Sur près de 1500 cas enregistrés, 26 sont décédés, 1309 guéris et 111 actuellement pris en charge sur les sites dédiés à cet effet. Dr Ilyasu a rassuré que la situation est sous contrôle. Hors de nos frontières, l'actualité ouest-africaine dominante, ce sont les résultats provisoires proclamés jeudi qui consacrent la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta pour un dernier mandat de 5 ans à l'issue du second tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Il l'a remporté avec 67,17% des voix contre 32,83% pour son opposant Soumaïla Cissé qui conteste ces résultats. Il annonce faire recours devant la Cour constitutionnelle car selon Cissé, les résultats ne reflètent pas la vérité des urnes. En attendant la validation par la Cour constitutionnelle, l'investiture est déjà programmée pour le mardi 4 septembre prochain. Dimanche dernier, le Conseil islamique nigérien a déclaré que la Tabaski sera célébrée mercredi 22 août au Niger. Sur les différents marchés, cette année, les moutons sont disponibles mais à des prix élevés, constatent les populations.
Merci Raïla Toussoumana et c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et au revoir.